16h51, salut Raph.
Salut Pat.
Donc, OK, il y a une crise dans la crise présentement aux États-Unis parce que, évidemment, le gouvernement des États-Unis veut lancer un programme de soutien aux citoyens, aux entreprises, mais contrairement au Canada, là, ça ne se décide pas uniquement, ces affaires-là, dans le bureau du chef du gouvernement. Faut avoir le concours du Sénat et là, le plan d'aide illustre les dysfonctions politiques aux États-Unis.
Ah, écoute, le mot dysfonction est bien choisi. Ça en est un triste spectacle. Ce à quoi on assiste depuis hier, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la deuxième fois en deux jours où le Sénat est complètement bloqué, incapable d'adopter le plan d'aide économique. On parle d'environ 1 000 milliards de dollars qui aideraient à la fois les particuliers et les entreprises. Et le pire là-dedans, c'est que c'est vraiment une chicane idéologique et partisane. Tu sais, tu oserais croire que s'il y avait un enjeu sur lequel tu n'aurais pas ça, ça serait la crise sans précédent actuelle. Eh bien, ce n'est pas le cas. On dirait assister à une bataille idéologique comme on en a dans des temps normaux entre les deux partis à Washington. Ce que les démocrates, eux, disent, parce que ce sont les démocrates là, foncièrement qui bloquent le plan, ce qu'ils disent, c'est que tel qu'il est actuellement conçu, il donne trop de discrétion aux grandes entreprises quant à quoi faire avec l'argent qui est dispensé. Mais ce qui accroche aussi et ce qui mérite d'être dit, c'est que Nancy Pelosi, la leader démocrate, est en train d'exiger depuis hier qu'on insère des clauses qui font partie en fait du Parti démocrate, comme par exemple augmenter la diversité sexuelle, la diversité raciale au sein des conseils d'administration d'entreprise. Mais tu sais, ça n'a rien à voir directement avec la crise actuelle. Fait que ça choque beaucoup de républicains qui se disent « Vous êtes en train de faire votre épicerie alors qu'on est en train d'essayer de gérer une crise, de tempérer une crise économique comme on n'en a jamais vu de nos vivants. » Mais au final, c'est toujours bloqué à l'heure actuelle.
Mais les démocrates, eux, disent qu'ils veulent que le plan donne plus de protection aux travailleurs.
Ben il y a ça, mais la façon qu'ils veulent faire ça, c'est aussi, ça fait partie de leur plateforme, de leur programme depuis bien avant, en fait, depuis des années avant le coronavirus, c'est d'augmenter le pouvoir des syndicats aux États-Unis, ce qui peut être un objectif qui est parfaitement louable. Mais est-ce que c'est le temps présentement de se chicaner au Sénat pour faire adopter ces clauses-là qui sont, somme toute, mineures, là, écoute, dans un plan de 1 000 milliards de dollars, alors qu'on est en train de foncer vers une récession, voire une dépression aux États-Unis? Est-ce que c'est le moment d'avoir ce genre de chicane-là? Je ne sais pas, je pose la question. Une fois que ça s'est dit, il y a quand même des chefs de file des deux côtés qui disent que tôt ou tard, on va s'entendre. Mais en même temps, on s'entend aussi pour dire que chaque heure puis chaque jour compte présentement. C'est vrai d'un point de vue de santé, c'est vrai aussi d'un point de vue économique.
Là. OK, donc c'est le chaos au Sénat, puis c'est un peu beaucoup le chaos à Maison-Blanche aussi.
C'est le chaos à la Maison-Blanche parce que la Maison-Blanche est carrément tiraillée en deux ailes présentement. Il y a l'aile de conseillers économiques qui, eux, sont en train de dire de plus en plus fort, ça ne peut pas durer, les mesures de confinement, les mesures d'isolement social, parce qu'évidemment, c'est en train d'avoir des impacts complètement dévastateurs pour l'économie. Et t'as l'aile qui est celle, évidemment, des professionnels de la santé, des conseillers de la santé qui disent au contraire, si on est pour toucher à ces mesures-là présentement, ça devrait être pour les resserrer et non pas pour les desserrer. Ce qui est intéressant là-dedans, Pat, c'est que tu vas te rappeler, la semaine dernière, en fait, il y a une semaine, jour pour jour, si je ne me trompe pas, là, je te parlais du fait que tôt ou tard aux États-Unis, on serait dans une situation où les décideurs seraient confrontés à des choix horribles, où tu aurais à choisir essentiellement entre des considérations sociales, des considérations économiques et des considérations de santé directes, évidemment, à cause du virus. Je vais être franc, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que ça en viennent aussi rapidement à ça. Et là, Donald Trump, ce matin, a vraiment, je te dirais, fait enflammer ce débat-là parce qu'il est allé envoyer le tweet suivant. Il est allé dire, et je le cite là, mot pour mot, « On ne peut pas laisser le remède être pire que la maladie. » Donc ça laisse sous-entendre que son équipe, la Maison-Blanche, est en train de tout au moins étudier présentement, considérer la possibilité d'annoncer qu'on desserrerait et non pas qu'on resserrait les mesures d'isolement, alors qu'évidemment, c'est ce que à peu près tous les gouvernements occidentaux font depuis les derniers jours et les dernières semaines. Mais je te dirais également ceci. Quand tu regardes juste Donald Trump personnellement, ça peut être juste à ses propres fins qu'il est motivé de desserrer ces mesures-là parce qu'il voit l'impact en bourse, il se dit que c'est peut-être pas très bon pour sa campagne de réélection.
Ça peut Raphaël, être... juste une seconde, oui. Philippe, vous intervenez.
Oui, tout à fait. Ben, il dit Donald Trump qu'il pourrait même revoir toutes ces mesures-là dans 15 jours à peine.
En moins de 15 jours, en fait, parce que ça pourrait être dans 7 jours. Parce que ce que la Maison-Blanche a fait la semaine dernière, c'était d'émettre un plan sur 15 jours pour essayer de mitiger l'impact de propagation du virus. Mais là, ce que Donald Trump laisse sous-entendre, c'est qu'à la fin de cette période de 15 jours-là, qui n'est plus dans 15 jours, qui est maintenant dans 7 jours, ben, on pourrait mettre fin ou en tout cas limiter les mesures qui ont été annoncées. Fait que, tu sais, il y a ça à garder en tête dans un contexte où c'est pas du tout dans cette dynamique-là qu'on est au Canada, on le sait, ou que même la plupart des pays d'Europe sont non plus. Fait que, tu sais, imaginez le décalage que ça pourrait donner à ce niveau-là, et le décalage aussi entre le gouvernement fédéral américain, s'il devait adopter cette approche-là, et plusieurs gouvernements d'État, comme l'État de New York, la Californie, qui, eux, resserrent la vis d'heure en heure, de jour en jour. Fait que, tu sais, il y a ça qui est très particulier. Une fois que ça s'est dit, on s'en parlera davantage demain, mais c'est pas simplement une crainte ou une considération lorsqu'on parle des impacts économiques que Donald Trump et ses conseillers économiques ont. C'est très, très répandu au sein de la population américaine. Ça, encore une fois, je veux qu'on s'en reparle demain, mais tu as maintenant des gouverneurs d'États comme l'État de New York qui ont adopté la mesure ou l'approche plus dure, qui sont quand même en train de dire, écoutez, faut déjà qu'on commence à réfléchir à comment au moins repartir un peu l'économie, permettre à certaines personnes de commencer à retourner travailler rapidement, parce qu'on ne peut pas garder ces conditions-là éternellement.
Parfait, merci Raphaël, on se reparle demain.
À demain.
OK, à venir, on aura Égide Royer, le grand spécialiste en éducation, qui va nous conseiller sur quoi faire avec nos enfants écoliers qui sont en relâche, et toute la gang des chroniqueurs s'en vient.